On est là, on est là, on est là. Il est 11h37 minutes. On discutait off the record là, avec Madame Balois. On discutait de la résistance, non, de la persévérance, oui, de la ténacité, exactement. Il faut pas lâcher.
Absolument pas.
Il faut pas lâcher. Et je vous dis du fond du cœur, sincèrement, Madame Balois, si vous n'étiez pas là des fois.
Mais justement, je suis là.
Voilà. Voilà.
Donc, vous me dites quand je vais commencer, hein? OK?
C'est parti. À vos marques, prêts, partez.
Voilà. Donc, on continue régulièrement les six sourates par six sourates, et là, on en arrive à la 19e révélée.
Wow!
Oh là là, ça va devenir... Et que, oui, qu'on trouve, c'est la sourate 105.
OK.
Et là, comme c'est étrange, on parle d'un éléphant. Alors, un éléphant, en arabe, ça se dit fil. F-Y-L. Hein? Maintenant, tout le monde sait écrire. Fil, éléphant. Et il y a la sourate 105, donc vous pouvez même la retrouver. Elle se trouve psalmodiée partout. Et les hommes de l'éléphant, ce sont certainement les Éthiopiens. Alors, c'est très étrange parce que le prophète reçoit une révélation où on lui dit ceci. En français, et ensuite on le dira en arabe, « N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a fait avec les gens de l'éléphant ? N'a-t-il pas rendu leur ruse complètement vaine et envoyé sur eux des oiseaux par volée ?» Des oiseaux qui, en quelque sorte, volaient en rangée. Et alors en arabe, ça fait « Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashab al-fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlilin » وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. C'est très intéressant. Pourquoi? Parce que on entre maintenant dans la grammaire. Ce sera la méthode la plus originale et je le regrette. Je le répète. J'en fais cadeau à Rokik. Il y a la moitié en audio et la moitié sur le site Liberty Vox. Donc quand on a A en arabe, A, simplement un bâton avec un petit bidule dessus qu'on appelle Hamza, ça veut dire est-ce que.
Okay.
Est-ce que l'âme, pas, ne pas, ça s'emploie avec une sorte de présent, qui n'est pas un présent indicatif, mais un présent qu'on appelle coupé, un présent apocopé. Alam tara, ça se dit encore, hein, alam tara, est-ce que tu n'as pas vu, kaifa, comment, fa'ala, a fait, rabbuka, ton seigneur, bi ashab al-fil, avec les compagnons de l'éléphant. C'est-à-dire sans doute les Éthiopiens. Alam Yaj'al, est-ce que pas Yaj'al, il a mis Kaidahum, il a rendu leur Kaida, leur ruse, Fitodlilin, il l'a rendu totalement vaine. Wa Arsala Aleihim, et il a envoyé contre eux Toiran, des oiseaux, Toir, vous savez, ça a donné d'ailleurs le mot avion, Toiran, Ababil, en rangée, Tarmihim Bihijaratin Min Sijil, qui leur jetait des pavés, minsijil, là c'est un mot un peu étrange, un peu persan, des pavés d'argile.
Ok.
Faja alahoum, et il les a rendus, ka asfin ma'koul, il les a rendus comme une paille, comme une sorte de mâché, ma'koul, c'est-à-dire c'est comme maktoub qui veut dire c'est écrit, du verbe kataba, et là c'est du verbe akala qui veut dire manger. Donc là on a déjà les verbes. Et on se demande ce que c'est. Eh bien, c'est un fait presque historique.
Oh, okay.
C'est-à-dire que les anciens qui ont écouté ce que le prophète récitait se sont souvenus qu'un siècle avant, vers 530, donc au 6e siècle, il y avait eu le vice-roi du Yémen, Abraha, A-B-R-A-H-A, qui avait, pour le compte du Négus, tenté une expédition contre la Mecque. Et il y avait des éléphants dans le lot, un animal en particulier, un éléphant qui aurait refusé d'avancer.
D'accord.
Il y aurait une éléphant fil, pour retenir un éléphant, c'est une grosse bête, ben là, c'est comme si c'était un fil.
Madame, vous savez, oui. Madame Balois, faut se rappeler aussi que Madame Delcambre a été écrasée par un éléphant.
Ben évidemment.
Malheureusement.
Et j'ai quelques grosses larmes quand je lis cette sourate, très connue d'ailleurs.
Oui.
N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a fait avec les gens de l'éléphant?
Oui.
Il a totalement rendu leur ruse vaine et il a envoyé sur eux des oiseaux qui ont jeté des pierres et ils ont été rendus comme une paille complètement mâchée. Je pense que ça fait référence à un événement. Il y a dû y avoir des éléphants venant d'Éthiopie qui se sont dirigés contre la Mecque et puis il y a eu une épidémie. Ils ont peut-être eu des petits boutons de rougeole, enfin peu importe. Mais c'est une sourate très très connue. Et alors on se demande pourquoi Dieu, Allah, la voix céleste raconte ça. Eh bien parce qu'à la Mecque, on considère que le prophète, il est complètement envoûté. On se dit, il a perdu la tête, le pauvre. Il est en train là de nous réciter des choses. Nous, on s'en fiche du jugement dernier. Il n'y a pas de vie après la mort. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de après la mort, il y aura un feu pour ceux qui sont méchants, qui brûleront dedans. En particulier, il fait brûler dedans son oncle, Abou Lahab, et sa femme, une grande aristocrate. Mais complètement malade, ce type. Il est envoûté et c'est alors que est révélée la 20e sourate, révélée la sourate 113. Et là, ce sont des formules pour préserver du mal. Comme si on disait au prophète, on t'attaque, eh bien voilà des formules d'exorcisme, hein, pour pouvoir te défendre. Et ça s'appelle la sourate 113, sourate al-falaq. Le fa, le f, le l et le q. Falaq. F, falak. L et le q. Voilà, falaq. Et alors, il y a le...
C'est toujours sur le même principe de le faire exploser?
Exactement. Okay, exactement.
C'est bon.
Et si on le dit en français, c'est dit, c'est un ordre, c'est la voix céleste qui dit au prophète, dit, je me réfugie auprès du Seigneur de l'aube, contre le mal de ce qu'il a créé, contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit, contre le mal des sorcières qui soufflent sur les nœuds, contre le mal de l'envieux quand il en vit. Et en arabe, ça fait قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Et ça, c'est très intéressant parce que les nafasa, nun, n, f et le sa, alif, ba, ta, sa, le n, comme un point dessus, le f, comme un petit rond avec un point, et le « ça », trois points, ça veut dire « cracher son venin ». Et là, ça fait appel à des bonnes femmes, genre un peu sorcières, qui soufflaient, faisaient des nœuds, « roukad », et alors vous ne pouviez plus du tout faire l'amour. C'est-à-dire, vous avez ce qu'on appelle dans les campagnes en France « nouer l'aiguillette ». C'est-à-dire que votre pénis, il est tordu, et vous ne pouvez plus... C'est-à-dire, il fait comme un nœud, et vous ne pouvez plus, vous pouvez plus baiser, quoi. Et alors ça, c'est les sorcières qui faisaient ça quand elles voulaient attaquer.
Ah, d'accord.
C'est un peu ce que les musulmans récitent contre le mauvais œil.
Ah,
parce que vous voyez, minchari, char, C-H-A-2-R, il y a un chin et un ra, avec un petit cheda au-dessus. C'est le mal hasidin iza hasada. C'est-à-dire hasidin, c'est l'envieux. On a peur dans le monde musulman de quelqu'un qui vous porte, comment dirais-je, la poisse. Quand on vous regarde trop dans les yeux, ça veut dire qu'on vous envie et ça va vous porter malheur. D'ailleurs, il y a un mot qui dit khams ou khamsa fi aynik, c'est-à-dire que les cinq doigts de la main soient mis dans tes yeux. Comme ça, tu ne pourras plus me regarder et okay. Essayer de me porter la poisse. Vous savez, quand on met comme ça un doigt à la pointée.
Oui.
Donc, c'est la 20e sourate. Comme si il était révélé. Voilà, il y a des gens qui essaient de te faire du mal. Voilà des formules pour te préserver du démon, des formules d'exorcisme. Et immédiatement après, il y a eu la 21e sourate qui est révélée, 21e chapitre, la sourate 114, qui parle la même chose, très connue, car c'est la dernière, 114. Elle en fin de compte, elle est la dernière dans le Coran, et elle n'a pas beaucoup de versets, et elle est la 21e dans l'ordre de la révélation. Ça s'appelle Surat An-Nas. Alors, An-Nas, Nun, Alif et S, Sin, Nun, le N, le A et le S, c'est An-Nas, ça veut dire les gens. Alors on dit, très connu ça, Qul, A'udhu bi Rabbin Nas, Malik An-Nas, Ilah An-Nas, je me réfugie auprès du Seigneur des gens, du Roi des gens, du Dieu des gens. Min sharri al-waswas al-khannas, min compte. On dit se réfugier, azabi, azobi, je me réfugie auprès de Rabbil Nas, c'est-à-dire bon, de mon créateur, min sharril waswas al khannas, c'est-à-dire contre le démon, min sharril waswas al khannas, contre le mal du tentateur furtif, allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wannas, c'est-à-dire de ce tentateur qui, allazi, yuwaswisu, c'est presque une onomatopée, qui susurre, qui chuchote, fissudurinnas, dans les poitrines des gens.
Okay.
Et ce diable, il est issu, minal jinnati wannas, c'est-à-dire qu'il est issu des démons ou des êtres humains. Donc là, on a deux sourates, la 113 et la 114, qui sont connues par cœur par les musulmans, parce que ça leur sert un peu, voyez, de formule quand ils veulent se protéger, parce que pour l'islam, le démon, il est partout. Il est quand vous entrez dans les toilettes, il est quand vous laissez un espace, partout, il est partout. Donc il faut vous préserver. Et alors là, ces deux sourates sont des sourates un peu préservatrices. Vous répétez Sourate An-Nas, Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswas al-khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, min al-jinnati wan-nas. Alors, vous avez dans les, si vous avez vu ce que j'ai mis sur le forum LibertyVox, il y a des récitateurs, des gens qui récitent, des lecteurs, et il y en a quelques-uns qui récitent presque en chantant et en étirant la voix. On appelle ça la psalmodie étirée comme du tajouïd, tartil. Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Vous voyez, ils font min sharril waswas al-khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, min al-jinnati wan-nas. Et vous savez que pour pouvoir savoir s'arrêter au bon endroit, c'est vraiment des années et des années d'études. Alors, donc, il y a ça, ces deux sourates, mais Mahomet n'en peut plus. Personne ne croit, les notables se moquent de lui, parce que eux, à la Mecque, les gens de la Mecque, les marchands, et même ses parents, comme son oncle Abou Lahab, ils croient à plusieurs puissances, ils croient à des déesses. Et alors, Mahomet va recevoir la 22e révélation, qui est la sourate 112. Très connue, parce que là, c'est vraiment la différence entre l'islam et le christianisme. Elle s'appelle Al-Ikhlas. C'est la racine kha, comme la chota, l'âme, elle, et sand, sauvant pas la tête. Très connue parce que c'est très simple. Elle a peu de versets, elle a 4 versets seulement. Surat al-Ikhlas, kul, alors c'est en français d'abord, dit, c'est un ordre, il est Dieu unique, Dieu éternel. Il n'a pas eu d'enfant, il n'a pas engendré, et n'a pas été engendré. Nul n'est égal à lui. C'est-à-dire que les musulmans considèrent que les chrétiens qui pensent que Dieu a un fils, c'est pour eux le comble de l'abomination. Alors ça, cette sourate est très importante. Sourate al-Ikhlas, Qul huwa Allahu ahad, c'est-à-dire Dieu est un. Allahu samad, Dieu est éternel. Lam yalid wa lam yulad, il n'a pas eu d'enfant et n'a pas été engendré. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, et personne n'est égal à lui. C'est tellement important qu'il n'y a pas un musulman qui ne la connaisse par cœur, avec la formule célèbre, lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas, alors, lam yalid, c'est comme si on disait ma walada. Si on emploie le passé, on emploie la négation du passé, ma, ne pas, walada, avoir des enfants. Ma walada, il n'a pas eu d'enfant, ou le présent apocopé avec lam, lam yalid. C'est pareil. Ou ma wulida, ou lam yulad. C'est-à-dire qu'il n'a pas été créé, il n'a pas été engendré, si je puis dire.
Oui.
Et voilà, deux manières de le dire. Alors les riches de la Mecque, en entendant ça, ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, ils se disent, il faut absolument qu'on agisse sur lui, parce qu'il est timbré. Et en plus, qu'est-ce que c'est un seul dieu? Alors que nous, on fait tout notre business avec plein de dieux dans la Kaaba. Il y en a au moins un pour chaque jour, il y en a un pour tout le monde. Il y a même des images de la Vierge. Donc il va nous saper notre commerce. C'est un fou, il faut l'arrêter. Et c'est alors que tombe la 23e révélation, qui est la sourate 53, intitulée Ad-Najm, Najm, c'est-à-dire l'étoile. Elle a 62 versets, et c'est très important parce que dans cette sourate, c'est ce qui a donné à Salman Rushdie la possibilité d'écrire, c'est là que se trouvent dans cette sourate les versets sataniques. C'est-à-dire ce qui s'est passé, C'est-à-dire, c'est qu'il en a eu assez, le prophète, donc il s'est dit, oui, ben d'accord, vos déesses, elles ne sont pas si mal que ça. Voilà, il a craqué. Et c'est la sourate dit, la sourate défend le prophète. Alors en plus, après, Mahomet s'est repris en disant, non, j'étais fatigué, j'en peux plus, c'est le diable qui m'a inspiré, mais il a quand même dit des choses qui ont été retirées après, mais qui ont donné la possibilité à Salman Rushdie d'écrire son livre « Les versets sataniques ». Ça va ?
Oui, toujours, mais moi, ce qui me fait rigoler, Madame Balois, ce qui me fait rigoler, c'est que on en vient à un même point, c'est que c'est toujours violent. C'est drôle, hein ?
C'est-à-dire que non, c'est-à-dire que le prophète se défend, car il faut dire que
OK, c'est différent, il se défend, c'est vrai, OK.
Il se défend. Dans les sourates de la Mecque, il ne fait que se défendre. D'accord. Il est abondamment insulté, il se défend, et il arrivera un moment où, quand il partira à Médine, alors là, il ne se défendra plus, mais il tapera. Eh oui, parce qu'il faut dire, là, Dieu le défend, mais lui, il est totalement, tout le temps attaqué. Et la sourate dit ceci, non, Mahomet n'est pas égaré, il n'a pas été induit en erreur, il ne parle pas sous l'effet de la passion, non, c'est vraiment Dieu qui inspire les révélations, c'est une créature à la force prodigieuse qui parle du fond de l'horizon et qui parfois descend plus bas et se rapproche si près que c'est vraiment à deux portées d'arc, ou même plus près encore. Non, Mahomet ne ment pas, il dit et il récite ce qu'il a entendu, et eux, sous-entendus les salauds de la Mecque, là, ils adorent des divinités femelles, Lat, elle a sans circonflexe T, Rosa, Manat, les trois déesses. Ils s'enorgueillissent d'avoir des mâles alors qu'ils rendent un culte à des femelles, c'est à mourir de rire. Ils ne croient pas à l'au-delà, ils ne s'occupent que de la vie présente. Et c'est très étrange, dans les versets 36 et 37, il dit « Ceux qui se sont détournés ne prennent pas en considération ce qu'il y avait dans les feuilles de, ou dans les rouleaux, de Moïse et d'Abraham, Moussa et Ibrahim. » Ce qui montre qu'au début, le prophète était tout à fait inspiré par les Juifs. Alors il continue, « Ton Seigneur, c'est celui qui fait rire et qui fait pleurer. » C'est très joli en arabe. « C'est celui qui fait mourir et qui ramène à la vie. » »« C'est celui qui a créé les humains en couple, le mâle et la femelle, Zakar wa Unta, d'une goutte de sperme quand elle est éjaculée. »« C'est lui qui a fait périr les Had et les Samoud, le peuple de Noé. » »« C'est un avertisseur, Mahomet, comme ceux qui l'ont précédé. » »« L'heure du jugement approche, mais vous riez au lieu d'en pleurer. » Et ce qui s'est passé, c'est que Mahomet a craqué. Il a craqué parce qu'il s'est dit, je suis peut-être un peu bête, pourquoi ne pas leur accorder ce qu'ils veulent ? Je garderai ce à quoi je crois, et puis leur déesse, c'est peut-être pas si mal que ça. Et je disais donc, Salman Rushdie s'en est inspiré. Et puis il s'est repris, c'est le diable qui l'a inspiré, et voilà comment Ibn Hisham raconte l'histoire. Lui, il raconte la façon suivante. Il y avait à la Mecque, Abu Jahl, J-A-H-L, un méchant Mécois qui ne cessait d'insulter Mahomet, de persécuter ses disciples. D'ailleurs, il avait été si fort dans l'insulte que un oncle de Mahomet, Hamza, s'était converti par solidarité tribale. Mais le pauvre Abu Jahl, il déteste le prophète et il déteste ses disciples. Il dit « c'est n'importe quoi ». Donc, lorsqu'il apprenait la conversion à l'islam d'un notable qui bénéficiait d'un certain soutien, il allait le voir et lui disait « Mais tu es malade, mais quelle honte! Tu as quitté la religion de ton père qui est meilleure que toi. Nous allons te prouver ton erreur et te déshonorer. » Et s'il s'agissait d'un commerçant, il lui disait « Nous allons t'empêcher de vendre ta marchandise et te ruiner. » S'il s'agissait d'un homme sans défense, il le frappait et le livrait à quelques hommes de main pour le torturer. Les compagnons du prophète étaient ainsi privés d'eau et de nourriture et subissaient de telles tortures qu'ils ne pouvaient plus se tenir debout. Leur souffrance était telle qu'ils étaient forcément réduits à dire oui à tout ce qu'on leur demandait. Par exemple, « Allat et Al-Uzza sont-elles vos déesses en dehors de Dieu ?»« Oui. » »« Ce scarabée qui passe devant vous est-il votre Dieu ?»« Oui. » C'est Ibn Hisham qui raconte ça. Hein. Et dans son souci, à ce moment-là, il en a tellement assez, le prophète, de voir que les persécutions n'arrêtent pas, il a décidé de s'adresser à Walid, le chef du clan des Makhzoum, M-A-K-H-Z-O-U-M, auquel appartient ce fameux Abu Jahl, parce qu'Abu Jahl, le père de l'ignorance, il est effrayant, il n'arrête pas. Peut-être que ce Walid, qui est quand même le chef du clan, il aura de l'influence et qu'il cessera. Et à ce moment-là, au moment où il s'approchait de Walid en disant « Écoute, ça ne peut pas continuer, on est vraiment persécuté, etc. » Le prophète voit approcher un aveugle, pauvre et âgé, qui s'était déjà converti à l'islam et qui lui dit « Est-ce qu'on peut réciter le Coran ?» Et Mohammed et Mahomet a été énervé. Il a dit « Qu'est-ce qu'il vient faire celui-là » Donc il s'est détourné un petit peu d'abord calmement, puis enfin quand même excédé à la fin de l'insistance de ce vieux bonhomme là qui perturbait les plans, qui l'empêchait de parler à Walid pour dire « Il faut que ça cesse quand même, à la Mecque, ça devient intenable. » Et c'est alors que la 24e sourate est révélée, la sourate 80, intitulée « Abassa », Aïn, Ba et Sin, ça veut dire il s'est renfrogné, et c'est il s'est renfrogné et il s'est détourné parce que l'aveugle est venu à lui. Abassa wa tawalla anja ahul a'ma. Et c'est très important ça, parce que ça montre que les sourates de la Mecque, elles sont pas du tout pareilles que les sourates qui ont été révélées plus tard à Médine.
C'est étrange.
C'est vraiment les gens qui l'attaquent. C'est vrai, parce que moi, ce qui m'énerve un peu, c'est qu'on on détourne la réalité.
Ah.
Ibn Hisham, c'est vraiment la biographie telle que les musulmans la lisent, la connaissent. Et, bon, c'est vrai que la première partie de la vie du prophète, et même des savants comme Mme Chabbi le reconnaissent, aucun homme n'a été plus insulté que le prophète de l'islam. Il a été traité de tous les noms, de fou, d'obsédé, d'impuissant, de magicien, de sorcier. Il a été traîné dans la boue, puisqu'un jour sa fille lui a essuyé les cheveux, il y a même quelqu'un qui avait versé un seau de boue. Je crois qu'il a tout subi. Alors ça explique peut-être, je le dis parce que j'essaye de comprendre. Alors c'est vrai que dans les sourates de la Mecque aussi, on est arrivé à la 24e et on a vu qu'il n'y a pas des choses, il n'y a rien qui puisse choquer au sens réel du terme. Il faudra attendre les dernières sourates révélées, quand le prophète sera en mesure de se venger, parce qu'il y a ça aussi, cet aspect vengeance.
Oui, tout à fait.
Oui, je crois qu'à la Mecque, il a énormément fantasmé, espéré, rêvé concernant les Juifs, vraiment. On ne parle pas des chrétiens, hein. On parle des rouleaux de Moïse, Moussa et d'Ibrahim, d'Abraham. On parle aussi de Noé. On verra qu'il a tellement été déçu quand les Juifs de Médine ont dit « Mais c'est n'importe quoi ce que tu racontes, c'est pas du tout ce qu'il y a dans nos écritures. » Alors là, l'amour s'est transformé en haine. Et c'est vrai que les sourates de Médine sont extrêmement, surtout les dernières, extrêmement violentes concernant les Juifs. Mais je pense que c'est plutôt un amour déçu. C'est pour ça qu'il faut en tenir compte, parce que je pense qu'il a beaucoup souffert et que le fait de le prendre comme... Bon, le fait qu'il ait souffert, on ne peut pas... Vous avez vu le nombre de sourates, et il y a beaucoup plus de sourates de la Mecque que de sourates de Médine.
Exactement.
Il faut quand même en tenir compte. Et si on faisait un peu de langue maintenant?
Oui, un peu.
Un petit peu. C'est-à-dire que si on reprend un petit peu quelques... Est-ce que vous avez votre clavier?
Oui, j'ai mon clavier sous la main même. Déjà,
Que je me suis énervé, je suis un peu énervé, je le dis. Bon, je ne vais pas dire le nom parce que je dois recevoir un message privé. Il y a des gens qui suivent très bien. Je les félicite en ligne. C'est le cas de Maximus, par exemple. Il attend notre émission comme vraiment, il attend ça avec joie. Et puis il y a des gens qui, bon, ils hésitent à se lancer dans la langue, dans l'étude de la langue.
Ouais.
Mais tant pis pour eux, hein. Moi, on peut rien faire pour eux. Hein.
Non, c'est ça.
Alors,
exactement.
Vous avez donc le clavier lexilogoque, et vous aviez raison. Le clavier lexilogos, eh bien, il rend le aïn par le G.
Oui.
Eh oui. Le R parisien, comme je vais à Paris, par le G avec une virgule.
Oui.
Et c'est vrai que c'est pas du tout courant pour nous, qui sommes arabisants, et ben c'est que la rota, ra, il le rend par un grand H avec une virgule.
Oh merde, ok, c'est bon.
C'est-à-dire, vous voyez, dans les lettres qui sont rendues de manière assez spéciale, alif, ba, ta, vous avez le sa, il le rend un petit t avec une virgule à côté.
Le sa. Sa.
Vous avez.
Est-ce que vous le prononcez? C'est ça que je voulais savoir par rapport au fameux T avec une virgule. Est-ce que vous le prononcez comme si c'était un C ou plutôt comme un fa?
C'est le sa anglais.
Ah, allez,
c'est
voilà.
Le T, alors, retenez bien pour les lettres, parce que c'est vrai que ce clavier, il y a quelques points à éclaircir. Alif bata, le sa, c'est le qui est rendu par le T avec une petite virgule à côté.
Ok.
C'est le sa interdental anglais.
Ok.
Ensuite, Donnez-moi les lettres que vous avez après. Le J, vous avez
le T, mais qui n'a pas de virgule, ce qui.
Non, c'est le T, c'est le T. Le
T. Bon,
le bon, c'est le T normal, comme Toto, Tata.
Tata, Toto, voilà, exactement. Voilà.
Ensuite, vous avez
le B.
Le B, bon, d'accord. Mais vous commencez par la droite, hein.
Oh, si, c'est vrai.
Donc, en commençant par la droite, oui. Voilà, votre clavier, qu'est-ce que vous avez en commençant par l'extrême droite, hein,
Alors, j'ai le J. Vous avez le J, justement, le avec un petit point à l'intérieur, c'est une espèce de...
Ben, le J, comme, comme J apostrophe AI, voilà. J. Ça, vous l'avez, le J.
Ouais.
Ensuite, vous avez quoi comme lettre ? Un grand H.
Le grand H, oui, majuscule, oui, bien sûr.
C'est ce que vous trouvez dans le nom du prophète Mohammed. C'est-à-dire, vous devez faire le H qui ne va pas racler, qui va passer fortement expirer
fortement,
comme le râle d'un mourant.
Ha.
Voilà, c'est ça.
Mohammed.
Ensuite, le grand H avec une virgule.
Virgule.
Ça, c'est la rota. Là, ça doit racler
tout ce
que vous avez comme rhume.
Ra, voilà.
Excellent.
Ra.
Ensuite, le del, le D.
Le D,
D. Et le D avec une virgule, le petit D avec une virgule.
Oui. Le petit
c'est
D avec
le
une virgule.
The.
Oui, parce que vous me l'aviez dit, c'est ça, je me rappelle. Alors, le
the. The, c'est le D, le voilà, zel. Z, c'est une sorte de Z, petit Z interdental.
Ah, ok, alors Zel. Et non,
voilà, très bien.
Et non, vraiment comme le T-H-E, the, en anglais, on voit
non,
vraiment...
Non, attention, le ça est sourd. Ali, bata, ça,
okay.
ça. C'est le T interdental, le S interdental, vous voyez, il n'y a pas de S, mais vous voyez, le ça, Ali, bata, ça, c'est comme le the anglais.
Ok.
Tandis que le Z, c'est comme un Z interdental.
Z.
Z, voilà. Ensuite, vous avez le R roulé, comme à la campagne.
Ah, oui.
Excellent. Ensuite, le Z.
Le Z.
Là, c'est pareil, c'est-à-dire... Ensuite,
Z,
vous
mais
avez
est-ce que...
le S.
Mais juste vraiment pour être certain, parce que j'essaie de... Je mémorise là, énormément ce que vous me dites là, au niveau de la phonétique. Là. Mais le Z, là, est-ce qu'on va vraiment aller le chercher avec un... Est-ce qu'on rajoute un THA? Est-ce que c'est...
Non, le Z.
Faut faire attention.
Le Z, quand vous avez la virgule avec un point au-dessus,
ouais.
Le Z, vous le prononcez comme Z, comme zèbre en français.
OK. Zèbre. Bon.
Voilà.
OK. Le
Ensuite,
S.
Ensuite, vous avez le signe qui ne se prononce jamais Z. C'est comme saucisse, ce. Le S, mais comme deux S.
Attendez. Il y a celui-là avec la virgule et celui-là sans la virgule. Celui sans la virgule, Madame Ballouin, on y va vraiment avec un
S. Alors, celui sans la virgule, le S sans la virgule, c'est le S comme deux S. Hein, ça n'a pas du tout le son Z. Hein, c'est
non.
Ce. Par exemple,
ce.
La saucisse.
Oui, c'est ça. Alors, ce.
Ce, le S.
Oui.
Voilà, le S. Et le S avec la virgule, c'est le CH.
OK. Alors, lui, par contre, est-ce qu'on fait un peu... Est-ce qu'on racle à la gorge avec un...
Ah, pas du tout. C'est le che, comme cheval.
OK, c'est parfait. Che, c'est beau.
Voilà.
Vous avez le S majuscule.
Vous avez quoi après?
Le grand S.
Ah, ça, c'est comme par exemple, si vous allez dire Saum, qui est le... Ou Siam, Saum, qui est le jeûne du Ramadan, jeûner. Ça veut dire c'est un S très lourd.
Alors, il faut vraiment le descendre vraiment.
Une grande boucle.
Ok, Saum.
C'est très bien, Saum, dites-le, Saum.
Saum.
Voilà, c'est simplement Saum.
Ce S-là se retrouve dans quelles circonstances se retrouve ce S-là, majuscule comme ça?
Mais par exemple, vous l'avez dans saut, qui veut dire... Vous avez, par exemple,
oui.
Saut, qui veut dire la voix.
OK.
Mais vous avez... Alors, ça s'écrit S.
Oui.
Avec un S majuscule, saut.
Oui, le fameux S majuscule.
Un W, waouh, et un T.
Alors, le T. OK.
Un tout petit T.
Un tout petit T, exactement.
Mais vous avez un mot très proche qui se dit saut. Vous avez le S, le petit S.
OK, le petit S, oui.
Le W, pareil.
Parce qu'on reprend...
Et le temps qui est comme un gros B.
Temps, avec un. Ah, mon sein de
mon sein. Ah, c'est pas du tout la même
chose. Non, c'est vraiment pas la même chose, effectivement.
Le mot saute avec S, W et le temps, ça veut dire le fouet, la cravache.
OK.
Et saute avec sand, un S gonflé, un W et un petit A, ça veut dire le son, le ton, le, la voix. Par exemple, si vous dites, ah, c'est joli, la voix saute, vous voyez?
Oui.
C'est pour ça que c'est très, très important. Ce n'est pas une langue à ton, comme le chinois et le vietnamien.
Non.
Il faut faire attention à ces lettres-là, qui changent totalement le sens. Vous dites, par exemple, dars, del,
dars.
Le petit D, le R roulé et le sin, ça veut dire le son.
OK.
Et dars, le gros D, là, que vous avez vu, là, le D avec une virgule.
Oui.
Avec le R et le S.
Ah, attendez un instant. Là. Le gros D avec une virgule, moi j'ai seulement qu'un petit D avec une virgule. Il y a...
Non. Plus bas, à côté du S, du S avec une virgule.
Ah,
peut-être que vous avez un D avec, vous avez un D majuscule.
Oui, c'est ça.
Voilà, je me suis trompé.
Non, il n'y a pas de problème.
Ce D majuscule, c'est le DOND.
Je suis en train de vous reprendre, là. C'est pas bon, ça.
Excusez-moi. Très, très bien. Vous avez tout à fait raison.
Non. Je suis vraiment l'élève, là. Attention, là.
Vous avez raison. C'était et le pourri. DORS, c'est-à-dire le DOND, le R et le S.
Oui.
Eh bien, c'est la molaire. La dent molaire.
Ah, DORS.
Alors, vous voyez la différence entre la leçon et la molaire. Si je dis DARS,
DARS.
Avec D, un petit D, un R roulé et un S.
Dars, ok.
Ça veut dire la leçon.
La leçon.
Et dors, un dord.
Un gros.
Un gros D.
Oui.
Un R et un S, ça veut dire la dent molaire.
On descend vraiment, ok, on y va plus bas. Dors.
Voilà.
Ok.
Non, vous avez un dord, un rat, et vous avez un petit sin.
Ok.
Un petit
c'est
S.
Bon.
D'accord?
Oui, numéro 1.
Donc, sans, d'ordre. Après, vous avez le temps, qui est comme un gros T.
Un gros T, tout à fait. Ah, c'est tellement spécial, Madame Balois, là, de lire de droite à gauche.
Voilà, exactement. Ensuite, vous avez là où on s'était trompé la dernière fois.
Oui, le fameux...
C'est le Ein qui est marqué sur le clavier lexilogos comme un G. Vous aviez raison, grâce à éclairage. Moi-même, j'ai jamais vu ça, mais ils ont choisi de le mettre non pas une virgule, mais de le mettre un G.
Oui, c'est ça.
Et c'est le cri du chameau, de la chamelle en rut dans le désert.
Aïn.
Alors, prononcez Yaj'al.
Je savais pas ça, bon ça.
Yaj'al.
Yaj'al. Non.
Pas mal.
Yaj'al, ok.
Voilà, Yaj'al, c'est comme si vous... Bon, ensuite, après le Aïn, une lettre très facile, c'est le R des Parisiens.
Ok.
Aïn, le R parisien, c'est le G avec une virgule.
Le fameux G avec une virgule. Alors, Aïn. Non. Attendez. Oui.
Rhein. C'est Rhein. Rhein. Oui.
Oui.
L'air parisien. Ensuite.
On a le F. Le
voilà,
F.
Voilà, c'est facile. Comme Fifi, Fou, ouais. Folding, voilà.
Pas plus compliqué. Et le par contre, on tombe à la lettre Q.
Ah, bah le Q, c'est le Q explosé. C'est ouais. Notre KAF.
KAF, ok.
KAF, très bien.
KAF, ok.
KAF. Faites-le encore plus exploser.
Attention, ça va faire peut-être mal. Je vais me reculer un peu du micro.
Et dites calbe. Dites calbe.
Ok. Calbe.
Calbe, oui.
Calbe.
Attention, parce que si vous faites un K, calbe, c'est le chien.
Ok, ouais. Calbe.
C'est le cœur.
Mais il faudrait que je le dise calbe pour que ça sorte vraiment. Mais calbe va sortir. Je pense que ça va être... Ça va être le petit bout difficile pour vraiment très pour distinguer.
Sinon, vous pouvez faire comme certains qui ne le prononcent pas, par exemple en Syrie ou au Liban, et ils disent Alb.
Alb, ok.
Oui, sans le kaf du tout, comme s'il n'y avait rien, comme s'il y avait la Hamza au début.
Et
dans certaines régions de la campagne,
oui.
Bordée au désert, ils disent Gelb.
Gelb.
C'est un G.
C'est étrange. Même eux, ils.
Ben oui. Seuls les Druzes au Liban prononcent vraiment le kaf.
Kalb. Calme.
Mais le Coran, il s'est prononcé. Si vous écoutez un peu quelques psalmodies du Coran, le kaf est très bien prononcé.
Ok.
Alors, qu'est-ce que vous avez après?
Là, on tombe avec le K.
Le K. Ben, le K, c'est comme kangourou, pas de problème.
K, oui. Et après ça, on tombe avec le L.
Aucun problème.
L. Le,
oui.
Le M.
Aucun problème.
Le N.
Aucun problème.
Le... Oh, attention, le H ici, mais...
Un petit H un peu anglais.
Ha, ouais, mais ha.
Très léger, vous voyez, à peine soufflé.
Ha.
Haraba, et ensuite...
Hach. Le W, lui,
oui, pas de problème. Ouais, que les ça. Turcs n'arrivent pas à prononcer. Eux, ils ont le V, mais ils n'ont pas le Wow. V.
Ils ont de la misère à le prononcer.
Oui, parce qu'ils ont le V. L'arabe n'a pas le V.
C'est dû à quoi, ça,
au niveau... Je sais pas. Par exemple, au lieu de dire Walida, qui veut dire une mère, la mère de famille,
okay.
Ils disent Validé.
Validé. OK, ils vont prononcer v. plus V. OK.
Mais faut faire... Non, faut faire W, comme wou, ensuite W, ensuite...
Walida, OK.
C'est ça, très bien.
Walida. Le Y.
Voilà,
mais,
comme
Ya.
Ya. Comme, bon, c'est facile, le Ya. Et voilà, et la Hamza qui est comme une attaque.
Okay.
Alors justement, si on reprend dans les mots, vous avez votre clavier, n'est-ce pas?
Toujours.
Alors, un mot qui est très connu, Kaifa. Kaifa, qui veut dire comment. Ça a donné kif-kif, hein.
Oui, alors ça va être un K.
Excellent.
Le Kaifa, on va prendre, il y a un F. Alors K. Et
qu'est-ce qu'on a oublié?
Oh merde, attendez.
Quand vous entendez Kaif,
c'est
qu'il y a un ya ou un y au milieu.
Ya, c'est ça, merde, je vais me taper sur les doigts. Ok.
C'est pas grave.
Alors, K, Y, et là, on tombe au F, là.
Okay. Eh ben, F, il est pas un peu comme Fifi, totalement fou, étendu sur la ligne?
Oui, tout à fait, c'est spécial. Attendez, je vais l'effacer, je vais le recommencer. Je l'efface à nouveau, je vais le recommencer.
Bien
alors,
sûr.
Dans le fond...
Alors,
le K, vraiment une espèce de L, mais à l'envers, avec un petit S à l'intérieur.
Le K, voilà, mais vous allez voir qu'il va se transformer.
Oui, c'est ça, exactement. Alors, après ça, on y va avec le YA, le fameux S, mais avec deux petits points en dessous.
C'est ça, le petit yo-yo, le petit si, voilà, très bien.
Et les deux se collent ensemble, et c'est drôle, le K perd le petit signe à l'intérieur qu'il a.
Bien sûr, parce qu'il devient une lettre du début.
Ok.
Excellent.
Ok, et après ça, on tombe au F, et là, ça devient comme un trait continu. Deux points en dessous et un point au-dessus avec une petite boucle.
Ah non,
non.
F, attention, ne confondez pas avec le Q sur votre respect. Le F, c'est pas le Q.
On me dit que je vais avoir des... On me dit que je vais avoir des ordres de colle retenus parce que justement, j'ai...
Attendez, vous avez le K, très bien fait,
oui.
Du début.
Oui.
Qui est devenu du début après l'avoir pris comme isolé. Ensuite, Y, les deux petites pattes de yo-yo. Et vous avez le F qui s'étend sur la ligne.
Voilà.
Mais qui n'a qu'un point sur la tête, au-dessus de la tête.
C'est ça. Et c'est là que je vous disais que ça faisait comme une forme, un petit rond ou enfin une petite boucle.
Exact.
Bon.
Un petit rond avec un point. Et alors, il relève un peu les pattes à la fin. Comme s'il était dans un hamac.
Kaifa.
Kaifa. Qui a donné d'ailleurs dans les dialectes kif-kif. C'est kif-kif.
Ah. Ah, ben bon.
Kaifa. Bien. Le mot suivant. Fa'ala.
Sa-a-la. Alors là, attendez. S, c'est sûr, mais est-ce que... Ah non. J'allais faire une erreur, là. OK, c'est bon. Alors, ça, le S, le minuscule...
Non, fa, comme foufou. Fa-a-la.
Désolé, des fois, je n'entends pas toujours très, très bien.
Alors,
avec les écouteurs, c'est pas évident. Alors, le fa-a-la, mais là, est-ce que je suis... j'entends encore un Y. Est-ce que c'est possible étirer ou pas du tout?
Fa-a-la, vous n'entendez pas le cri de la chamelle en rut? Oh, oui, mieux.
Bon, alors, fa-a-la. Alors, le F...
Fa-a-la.
Il n'y a pas le... OK, alors le F.
Ensuite, qu'est-ce que vous avez?
J'allais dire le L, mais il y a le
Ein
en
milieu.
Ce qui veut dire qu'il y a le G. Mais attendez, est-ce que c'est celui-là?
C'est le G, très juste au milieu.
Mais c'est très différent, parce que je veux vraiment déterminer, parce que j'ai de la difficulté encore peut-être avec le G, avec une virgule, et le G...
Non, pas le G avec une virgule. Le G avec une virgule, c'est le R parisien.
Oh.
Mais le G sans virgule, c'est le cri de la chamelle en rue dans le désert.
OK, alors on y va avec le F et le G.
Qui est au milieu comme un triangle isocèle à l'envers.
Oui, c'est ça, exactement. Alors un petit point... Pour débuter, au-dessus d'un petit rond, on descend et le fameux triangle isocèle à l'envers.
Ah, la deuxième lettre. Et la troisième, c'est quoi?
On y va avec le L.
Très bien.
Parfait. OK. Numéro 1. Oui. Et là, tout ça, mais on dirait que ça reste quand même pas mal identique. Par contre, le triangle isocèle disparaît pour faire une continuité avec le L qui donne une boucle.
C'est ça.
Bon,
c'est
mais qui reste ouverte, la boucle.
Très juste. Très juste. Maintenant, je voudrais le mot « fil », qui veut dire « éléphant ».
Oh my god.
Phil. Je dis pas Phil, hein. Phil.
Phil. On se fout de ma gueule. C'est pas grave. Il faut commencer quelque part, Madame Balois, et moi je vais commencer du bon pied avec vous.
Vous avez raison.
Phil.
Ne vous inquiétez pas. Phil, grosse bête qui veut dire éléphant et qui n'est pas mince comme un fil. Phil, éléphant.
Alors le F qu'on va reprendre.
Exactement.
Et mais par contre là, Phil.
Oui, très bien. Qu'est-ce qu'il y a après, alors?
Il y a un Y.
Excellent!
Bon, là, je l'ai bien entendu ce coup-ci.
Ouais. Ils peuvent se moquer de vous, c'est la jalousie.
Oui, c'est ça. Exactement. On y va avec le... J'espère que tout le monde a son clavier en arabe.
Ah,
c'est
oui,
le
oui.
Lexilogos. Et après ça, on va le coller ensemble. Alors, le F, le Y, et on va rajouter le L, quand même.
Excellent.
Bon.
Qui veut dire éléphant.
Éléphant. Oh, c'est incroyable.
Maintenant... un mot plus compliqué,
oui.
Je vous dis « toir ».
Ah là, vous êtes dur avec moi, là.
« Toir ». « Toir ».
« Ah, merde ».
Qu'est-ce que c'est le « to » Ça va être quoi?
Attendez, là,
je veux... dire « oiseau oh, » ou « oiseau ».
Oui, je vais le trouver. Non, c'est... Le « t » Non, c'est pas ça. C'est... Mais attendez, là, est-ce que c'est le... Juste encore...
Ah, j'ai pas dit « taïr », j'ai dit « toir ».«
Toir », OK. Alors, le « t », tout court.
Qui est comme quoi?
C'est...
Comme un gros « b ».
Oui, exactement, c'est ça. Un gros B, exactement.
C'est un T majuscule.
C'est le majuscule, voilà. Parce que
excellent.
Je voulais encore le tair et le T, le petit minuscule. Comment on le dit déjà? The.
Ta.
Ta, mais c'est
ça
l'autre.
Là, c'est ton, tair.
Tair.
Ensuite, j'ai tair. Qu'est-ce que je vais mettre après le temps?
Tair. On y va avec encore... Non.
Si.
Encore avec le Y?
Voilà, excellent!
Bon, c'est bon, OK. Le ta-ir. Toutes les fois, dans le fond, là, que j'entends le...
c'est le Y.
OK, parfait. Je vais essayer de me le rentrer entre les deux
sur ça. Et ensuite, à la fin...
Ta-ir, avec le R, le petit R.
Voilà, le R roulé.
Le R roulé, voilà. OK, alors
roulé.
Ça...
Très juste.
Oui. Alors,
ensuite,
un B...
Oui.
Et c'est drôle, ici, je remarque que ça devient comme une petite barre droite, comme un T à l'envers avec deux petits points en dessous, et le R vient faire une espèce de virgule, si on veut.
Donc, dans le R roulé?
Oui, exact.
Le R, très juste, c'est une grande virgule,
oui.
Mais là, toutes les lettres s'attachent.
D'accord.
Toutes les lettres s'attachent. Maintenant, le mot que vous connaissez, certainement, le reprendre, kalam, kalam.
Alors là, le kalam, le Q est explosé.
Exactement.
Bon.
Exactement.
Ça, je l'ai retenu. Kalam.
Le kaf, ça va être comme, oui.
Après ça, le Q, le L. Là,
très juste.
Bon, alors le K, le U, le L, parfait. Lam, avec un M. C'est bien.
Voilà.
Est-ce que j'ai bien compris le M? Alors.
Et tout à fait.
Q.
Le M est comme un petit spermatozoïde.
Ok. Q, L et M. Alors.
Excellent.
Kalam.
Kalam qui veut dire crayon, exactement.
Crayon?
Oui, crayon ou plume.
Ok, d'accord. Parfait. Sortez-moi là un difficile juste pour me compliquer la vie, là, pour que j'ai l'air encore vraiment d'un débutant.
Alors, je vais vous demander quelque chose qui ne va pas vous plaire. Caïd.
Oh my God. Bon, Caïd.
Caïd, comme un caïd.
Alors K. Le K.
Très bien!
Le ID. Mais par contre, répétez-le s'il vous plaît.
Caïd.
Ah, ben alors ça va être un I à ce moment-là. Ce ne sera pas un Caïd. Alors,
non, I. Non, ça va être un YA. Quand vous entendez le son I, comme on ne marque pas les voyelles,
oui.
Vous mettez tout de suite un YA.
OK.
Le K, le YA et le D. Le DEL.
Et le D. OK. Est-ce que c'est un. Oui, c'est un petit minuscule.
C'est comme un fer à cheval sur la ligne.
Oui, c'est ça. OK. C'est bon.
Ça veut dire ruse, artifice, ruse.
Ruse,
maintenant,
artifice.
Maintenant, un mot très connu pour dire c'est le destin, maktoub.
Maktoub.
Okay. Quand on dit maktoub, ça veut dire c'est écrit, on n'y peut rien.
Oui. Alors le M.
Excellent.
Le T.
Non, maktoub.
Ah merde, c'est vrai. Maktoub. Maktoub. Le K.
Très bien,
bon.
Le K du milieu.
Et là, maktoub, je vais tomber sur le T.
Très bien, le petit T du début, bata, oui.
Bata, c'est ça.
Comme les yeux de Toto.
Maktoub. Toub.
Maktoub. Attention.
Oui, oui, c'est ça. Là. Je suis ici au point de me dire, est-ce qu'on va rajouter le... Mais c'est une lettre étirée, là, ici. Là.
Toub. Oui, oui, ça va être quoi? Vous allez rajouter quoi?
Mais ben, pas le Y, quand même.
Non, mais autre chose.
Non, c'est ça. C'est le A.
Non. Parce que ça serait pour allonger le A, le A.
Là, je sens que je vais
la
me faire
taper. Troisième lettre, ça sera quoi pour allonger? Ça va être le.
Ah, je vais me faire taper sur les doigts. Je ne le sais
non,
pas.
Non, je tape pas cette fois aujourd'hui. W.
Oh. W.
Oui, parce que le W a également quand il n'a pas de consonne,
oui.
C'est-à-dire quand il n'a pas de voyelle, le W, il oui. A le son OU.
Ah, ok. Et attendez là. Ah, ok. Alors le Y, on le répète. Aïe.
Non, le Y, c'est pour allonger le son I.
Oui, c'est ça, le I. OK, et le W, c'est pour le...
Ou, le pour le ou.
Ah, d'accord, parfait. Alors, voilà, j'ai... OK. Maktoub. Et
voilà.
Il faut pas oublier, il y a quand même une dernière lettre, ce serait le B. Toub.
Excellent.
Toub.
Alors, on voilà. A le M du début,
oui.
Comme un petit rond.
Oui, exactement.
Le K qui est comme une équerre bizarre,
oui, c'est
un
ça.
Trait un oblique et avec un autre qui est presque perpendiculaire.
Voilà.
Un T, les deux yeux de Toto.
De Toto, exactement.
W, qui est comme un gros neuf,
voilà.
Bien rebondi.
C'est ça.
Ne s'accroche pas à la lettre qui suit, et alors on a un B tout seul.
Ah, je suis... Non, mais là, je m'amuse comme un enfant, là, Madame Balois, là, je vous le jure. Là,
moi, très sincèrement, je sais que je m'appesantis, comme il y a beaucoup de sourates de la Mecque qui n'ont pas de problème, qui ne posent pas de problème, c'est sûr. Je m'appesantis sur l'écriture parce que c'est essentiel. Et ça fait, c'est rigolo, avouez.
Oui, ben moi, en tout cas, je trouve ça super intéressant. Là. J'aime la formule, même si c'est peut-être anti-radio ce qu'on est en train de faire. Je tiens à vous le dire, là, c'est pas évident parce que, à quelque part, moi, je dois me forcer le cerveau à comprendre rapidement. Pour que
alors,
ça
soit... je vous donne un autre mot qui est très amusant, qui veut dire « nafassa, cracher son venin ».
Alors, nafassa, ah, c'est bien.
Nafassa.
J'en connais nafassa. Beaucoup. Madame Malois, j'en connais beaucoup qui font ça. Alors, nafassa.
Oui. Nafassa.
Alors, na. Alors, on y va avec le... Attendez un instant. Na, N.
Très bien.
Fa.
Il y a un point au-dessus. Na.
Fa. Le F.
Excellent.
Fa. Alors, na, fa, sa. Là, ici... Attendez, c'était lequel? Bon sang, déjà. Allez, réfléchis, Ismaël. Réfléchis.
Na,
fa, sa. Sa. Le S... Non, attendez.
Non, ça, c'est le T interdental.
Ah, c'est merde, c'est ça, j'étais pas loin. Alors,
oui, nafassa, c'est-à-dire avec trois petits points, comme un tréma avec un petit point en plus, comme trois petites pommes.
OK, nafassa. Alors, dans le fond, un petit point au début, on
oui.
Continue avec une petite boucle, un point au-dessus.
Exact.
Et après ça, ben, les trois petits points à l'intérieur. Okay.
Excellent,
okay.
Nafassa.
OK, nafassa. Nafassa. Est-ce qu'on l'écrit parce que là on me donne une définition N-A-F-A-S-S-A.
Alors on l'écrit N-A pour la transcription normale. On
oui.
Écrit N-A-F-A-T-H-A.
Oh, T-H-A.
Oui, et parfois on met même un T avec un petit trait en dessous. C'est le sa, c'est la lettre anglaise.
Ok, parfait.
Nafassa.
Un dernier mot, Madame Balois, s'il
bien
vous plaît.
Bien sûr, le mot falak.
Oh my god.
Falak qui veut dire l'aube naissante.
Falak. Oui, allez-y. Quand l'ombre quoi?
C'est l'aube, l'aurore. Quand le jour commence à naître et que ça commence à faire jour. Il commence à faire jour.
Alors, le F.
Excellent.
Le L.
Excellent.
Falak. Falak. Non, attendez.
Mais si.
Le cul explosé?
Et tout à fait juste.
Ouais, falak.
Faut partir en apothéose.
Voulez-vous?
Falak, très bien.
Falak. Ok.
Qui veut dire l'aube naissante, l'aube, A-U-B-E.
Mm-hmm. Uh-huh. Alors, falak.
Falak. Et un petit mot dernier.
Oui.
Facile.
Oui.
Le mot mine, qui veut dire de, mine.
Ah, ça, on l'avait déjà fait.
Ouais, peut-être.
Oui, alors, mais c'est pas grave, c'est pas Le M, on y va avec
excellent.
Le M.
Oui.
Mine, le Y.
Non, j'ai pas dit mine.
Ah.
J'ai dit mine. Très bref.
Alors, on y va avec le... Attendez, il n'y a pas de I là-dedans, c'est vrai?
Non, je dis mine, mais en réalité, vous ne marquez pas les voyelles brèves,
non, c'est
les
ça,
voyelles courtes. Donc, on met M et N.
M et N.
Et
alors,
tout simplement.
Ça donne une petite boucle ou un petit rond, dans le fond.
Exactement, comme un petit ventre de nounours.
Oui, c'est ça. Et après ça, on a une espèce de petit rond. Oui, c'est ça, le ventre de nounours.
Et
voilà.
Un dernier mot, l'âme. L'âme qui veut dire ne pas et qui est une particule pour un présent très curieux.
L et M.
Eh ouais.
Et voilà. Alors, une espèce de L à l'envers qui continue à descendre comme une chute, une petite croche au-dessus, à l'intérieur.
Voilà, mais qui va s'accrocher au M, parce que le lame, le L s'accroche au M.
Ok.
D'accord?
Oui, c'est super. Moi, en tout cas...
Alors, je crois que ça alors, en plus, je vais vous dire...
Oui.
Cette méthode, qui va quand même relativement lentement, parce qu'elle répète, elle répète, elle répète...
Oui.
Je compte... c'est pour ça que je dis de ne pas vous décourager.
Ah non.
Je pense qu'en 6 mois, on aura vu tout le Coran et les éléments de la grammaire.
Et j'espère pouvoir parler avec vous, arabe en ondes.
Exactement. Parce que, je vais vous dire une chose, vous avez tout à fait raison. Grâce à l'arabe coranique, je pourrais vous dire Ya Ismaïl, Ya Ismaïl. Et en s'appuyant sur la sourate, par exemple, de l'éléphant, je dirais Alam Tara Kaifa Fa'ala. Est-ce que tu n'as pas vu comment a fait je continuerai les gens du Québec, vous voyez?
Oui.
Alam Tara Kaifa Fa'ala, etc. Arijel, Al-Lazina, vous voyez, on pourra s'exprimer en arabe littéraire.
Eh oui, et Dieu sait qu'on va augmenter l'auditoire musulmane.
Mais j'espère, parce que vous savez qu'ils
pourquoi
n'ont
pas
aucun lieu pour apprendre l'arabe coranique, sinon dans les mosquées.
Ah, je
et
pas.
Dans les mosquées, j'ai essayé de voir comment ils expliquent. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois très forts pour la psalmodie, je dois rendre vraiment, je pense qu'ils ont des avantages. Mais en revanche, c'est fait de manière, parfois, pour ça que j'ai conseillé une grammaire, que je la conseille toujours, hein, 9 €, un truc comme ça, très bien faite, et puis un dictionnaire qui permet de retrouver les racines. Avec ça, vous pouvez survoler tout le Coran dans son entier et vous avez acquis une compétence rare.
En tout cas, une chose est sûre, Madame Alloy, moi, j'aime bien faire l'exercice quand même et je peux vous dire ceci. Lorsque, ben, les deux premières fois qu'on le fait, il y avait une toute petite baisse au niveau de l'auditoire, mais là, elle est très stable. Et même, on augmente. Alors, justement, je pense qu'on va poursuivre, ce petit côté-là, apprentissage. On parle de sourate au départ et après ça, on traduit, on essaie d'apprendre justement le vocabulaire, quoi.
Et en même temps, cher ami,
oui.
Ça veut dire que devant un clavier en arabe,
oui.
vous ne serez pas comme une poule devant un couteau.
Ah, tout à fait, exactement. C'est ce que je craignais au départ, mais bon, ça donne un excellent coup de pouce d'avoir ce clavier-là, c'est sûr et certain. Et d'ailleurs, j'apprends le comment sont faites les lettres, comment les formes
sont. Exactement. Et puis, je vous dis, les claviers arabes, de plus en plus, étant donné ce qu'est le web,
oui.
Eh bien, le fait de savoir se repérer sur un clavier arabe, eh ben c'est un plus, cher animateur, si jeune. Vous êtes encore un bébé, mais vous allez devenir un géant.
Eh ouais, je suis un enfant encore. Ben, vous pourriez être ma mère, hein, oubliez pas
ah
ça.
Ah ben, et même votre grand-mère.
Ah, je sais pas.
Donc, sincèrement, je pense que c'est pas du tout vous défavoriser que de vous obliger à vous arabiser et à vous coraniser.
Vous dites que vous pourriez être ma grand-mère. Attention, nous avons une nouvelle insolite qui vient de nous arriver sous la main, Madame Balois.
Oui.
Une femme aux États-Unis a accouché de deux jumeaux. Elle était âgée, savez-vous de quel elle avait dit qu'elle avait 53 ans, mais en réalité
elle a menti. Elle était beaucoup plus âgée.
Tout à fait. Vous avez vu la nouvelle?
Ah ben oui, ben on recule.
Ben ici.
Bon, alors on marche comme ça, mais ne vous découragez pas. Au début, je savais que les gens allaient être un peu découragés, mais je n'abandonne pas la biographie du prophète. Et quand on va arriver dans les sourates de Médine, ça va devenir passionnant.
J'en suis certain.
Bien, merci.
Merci, Madame Balois.
Merci, Dylan.
Oui. On se reparle la semaine prochaine, lundi prochain.
Aucun problème.
Votre collègue Gérard Pince prend le relais demain.
Ah, il est très brillant.
Et savez-vous, on va parler aussi à M. Reichmann vendredi.
Ah, je suis contente, je l'adore.
Eh oui, moi aussi, je vais. Ben, le maître va. L'élève va rencontrer le maître, quoi.
C'est bien, non, c'est bien. En plus, c'est quelqu'un de très intelligent. C'est un homme de radio. Très. Comment dirais-je? Il a la radio dans le sang. Et c'est un des rares à qui j'avais dit, voilà, je suis sur Rocky, que j'avais donné à son émission un tour un petit peu comme ça, olé olé. Et c'est quelqu'un qui comprend très très bien ce que le monde moderne demande, à savoir c'est fini les ronrons de Pépé. Non, non, il faut aller autrement et faire autrement.
Il faut brasser la cage, comme on dit par chez nous.
Tout à fait. Et vous verrez que c'est un homme qui, vraiment, c'est un homme très cultivé. C'est vrai qu'il est très poli et très courtois, mais c'est quelqu'un qui a un grand sens de ce que de ce qu'est le monde moderne.
Merci beaucoup. J'espère que vous serez à l'écoute vendredi pour.
Oui, j'adore. Voilà.
Tout à fait. Bonne journée.
Au revoir.
Au revoir. Merci. Au revoir. Alors, c'était Mme Ballouin que vous venez d'entendre. Écoutez, il est 12h31. On a dépassé. Même, je suis smart de vous en donner autant que ça. Bon sang! Ah! Oh!